Bonjour professeur Olivier Mazen.
Bonjour Christophe, merci de me recevoir dans votre émission, c'est un grand plaisir pour moi.
Le dernier vers, c'est le titre de votre livre paru aux éditions de Noël. Dans ce livre, vous racontez votre histoire, votre descente aux enfers avec l'alcool, comment vous en êtes sorti aussi grâce à un traitement que vous avez découvert, on va dire, le baclofène, jusqu'ici utilisé comme décontractant musculaire. Vous êtes aussi médecin et cardiologue. Oui. Vous avez conscience de susciter de nombreux espoirs avec ce traitement. Oui. Parmi les gens qui sont touchés, parmi les familles aussi.
Oui, je suis professeur de médecine. En fait, deux titres qui m'ont été conférés d'ailleurs aux États-Unis. Il faut croire que la France, cette découverte est considérée par la presse anglo-saxonne comme la plus grande découverte médicale du siècle. En France, je trouve qu'on est un peu petit. On ne peut pas donner deux titres de professeur. Je m'en fiche complètement. Mais je veux dire, les Américains sont toujours à l'affût de ce qui peut être associé à une découverte va valoriser leur université. C'est pour ça qu'ils donnent des titres. C'est pas pour mes beaux yeux, évidemment. Alors, ce livre est considéré, c'est la première fois qu'un livre grand public a transformé le cours d'une maladie. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, depuis la publication de mon livre, déjà depuis la publication de mon article en 2004, mais guérissent. Alors maintenant, c'est exponentiel. Il y a des milliers de patients qui sont guéris par mon livre. Ceux qui font, ils lisent le livre, ils l'emmènent chez leur médecin généraliste. C'est un généraliste qui fait le travail. On n'a pas besoin de psychiatre, on n'a pas besoin d'addictologue qui n'y connaisse rien. Vous allez chez un psychiatre, chez un bon généraliste, vous lui dites prescrivez-moi ça s'il vous plaît parce que je vais mourir, et le médecin le fait s'il a un cœur, et sinon vous changez de médecin.
Alors, il y a des recherches de validation qui sont en cours, on reviendra là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Ce livre, oui, c'est aussi votre témoignage, votre histoire, c'est aussi, oui, pour ça bien sûr qu'on vous a invité. Oui. Comment vous allez aujourd'hui?
Alors moi, je me porte depuis que je suis sous baclofène mieux que jamais. Je n'ai pas un seul mauvais jour, je suis bien, je suis un homme heureux.
Vous considérez comme guéri?
Ah, guéri depuis 2004. L'alcool pour moi est une histoire très ancienne. Je ne pense plus à l'alcool. Depuis, ça fait 8 ans, je n'ai pas une seule pensée d'alcool. Je n'ai pas eu une et je ne peux pas rechuter. J'ai essayé de me forcer à rechuter en prenant des bouteilles, etc. Il est impossible pour n'importe quel patient correctement guéri, je dis bien correctement. En France, on a toute une pléthore de médecins qui disent « je sais comment le faire, Amezen me l'a dit, etc. » Je n'ai rien dit du tout. Ils improvisent, ils guérissent mal, et moi je recueille leurs échecs et des patients qui ne sont pas guéris, qui passent 7 semaines en psychiatrie, qui vont très mal. Et donc, il faut pas prétendre qu'on sait guérir quand on ne sait pas guérir. Moi, je veux bien les former. Aux États-Unis, les gens sont avides de savoir, ils m'ont demandé de les former. J'ai donné des cours à Harvard, j'ai donné des cours dans toutes les universités, j'ai formé mais des médecins à Chicago, ici, elle a, et il faut exactement ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils suppriment non seulement la dépendance à l'alcool, mais à la cocaïne, à la nicotine. C'est très facile, je l'ai fait.
Tous les aspects de la dépendance, parce que vous expliquez bien qu'est-ce que ça recoupe, cette dépendance à l'alcool. Vous parlez notamment du craving. On peut peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est.
Oui, le craving, vous êtes obligé de soit boire, soit de fumer, de la nicotine.
C'est une pulsion.
Ça joue sur le système de la récompense, qui était très bien décrit par Antonio Damasio, qui est un portugais-américain, et qui montre que lorsque quelque chose est perçu comme nécessaire à la vie, vous allez sécréter le plaisir, vous allez sécréter la dopamine au niveau du cerveau. Donc vous allez sécréter de la dopamine, et une boulimique, par exemple, n'aura pas assez, il n'y aura pas de satiété avec un repas, elle va être obligée de reprendre un repas, et un repas, et un repas, et un repas, et elle en mourra d'ailleurs, parce que elle se fera vomir, etc. Ces maladies sont toutes mortelles. Elles tuent plus que n'importe quel cancer, par exemple. L'alcool, la cocaïne, la nicotine, tout ça sont des maladies. L'héroïne, j'en passe, et les comportements associés, les achats compulsifs, etc., sont des calvaires. Ce sont des tortures pour les patients, comme je l'ai dit, dans l'université de Zurich, et c'est repris par le site de la Société Suisse de Médecine d'Addiction. Et c'est également une mort. Alors, maintenant, faire des essais cliniques contre placebo, comme on en fait en France, et je les ai attaqués dans une tribune libre dans le Nouvel Observateur, je les attaque encore aujourd'hui avec les journalistes américains, Time Magazine et New York Times, etc., sont très au fait, et CNN, de ce qui se passe. Je dis que cet essai est non seulement une fraude, mais est une faute éthique, et aboutira à mort d'homme. S'il y a quelques morts d'hommes, parce que vous donnez pendant 12 ou 14 mois, vous privez le patient d'un traitement de références existantes comme la naltrexone ou la camprosate qui sont approuvées par l'AFTAPS et qui sont également pas chers et qui sont remboursés par les sécurités.
Alors on va
sociales.
Voir comment vous en êtes arrivé à utiliser ce traitement, le baclofen, oui. Non pas par hasard, mais on va dire un petit peu en tant que
pas
pionnier
du tout
en tout cas.
Pas du tout, oui.
Le livre commence, lui, par... il raconte très largement votre histoire. Le livre commence par une cuite. Vous êtes blessé, vous allez aux urgences. C'était un petit peu ça, votre quotidien avec l'alcool. C'est-à-dire, oui. On voit ce mélange de confiance envers ceux qui vous soignaient et de honte aussi de se retrouver là, hein, dans ces situations.
Oui, ils avaient plus honte que moi. C'est-à-dire que celui qui... Moi, que je saignais, je ne savais même pas pourquoi je saignais dans ce taxi. J'avais pris le taxi, il ne m'aurait pas pris saignant du front. Et j'ai demandé à aller à mes urgences. Et urgences de mon hôpital, où j'étais personne senior et professeur, etc. Et celui qui me traitait était un interne. Et il était bien plus gêné, il ne me regardait pas dans le visage. Moi, je le regardais. Mathieu Caleb, je me souviens de son nom. Je le mentionne dans le livre. Il était très gêné. Et je lui ai même dit, Mathieu, il ne faut pas faire un... Il voulait me faire une suture. Je lui dis, c'est sur le front, ne laisse pas de traces, mais un stéristrip. Donc je reste à le médecin pendant la cuite.
Quoi. Ouais, c'était vraiment un moment délicat. Un autre aussi est celui où vous contactez votre secrétaire. Vous pouvez plus travailler. Vous lui dites, il faut annuler mes rendez-vous. Et vous lui dites, c'est peut-être d'ailleurs l'une des premières fois que vous prononcez ce mot auprès de vos collègues, on va dire. Vous lui
Tout
dites, je suis alcoolique.
Oui, je Quelle lui est sa dis, réaction annulons les patients, je suis alcoolique. C'est une dame du Sud avec le charme, la blague du Sud avec ce charme du Tennessee, etc. Première sourire aux lèvres et première chose qu'elle me dit, j'ai dit annulons, je suis alcoolique. Elle éclate de rire. Elle lui dit oh, sérieusement, docteur, sérieusement, tell me. Et alors j'ai dit je suis alcoolique, early, c'est sérieux, etc. Il faut supprimer les malades. Je ne peux pas les exposer. Je me considérais comme dangereux. J'étais le seul. Tous les médecins qui sont en exercice, il y a 30 à 50% des médecins qui sont alcooliques, autant en Belgique qu'en Angleterre, ça s'est démontré, qui exercent la médecine, que personne ne montre du doigt et qui, eux, estiment normal.
Mais ils continuent, effectivement.
Ah oui, sont donc des dangers publics, ils conduisent, ils font les visites, ils peuvent écraser un enfant en faisant la visite, c'est-à-dire ces gens devraient être interdits ou au moins on devrait leur dire faites attention, ne conduisez.
Alors vous avez beaucoup de recul sur votre dépendance, vous racontez beaucoup de choses, notamment l'anxiété qui vous habite depuis très longtemps. Vous avez quand même pensé pendant longtemps que vous pouviez gérer, hein, comme beaucoup de gens dans ces situations. Pendant longtemps vous vous êtes dit je peux gérer.
Alors j'ai géré l'anxiété, je disais je ne peux pas gérer l'anxiété. L'alcoolisme n'est venu que très tard parce que l'alcoolisme, lorsque je disais au médecin, l'alcoolisme qui est venu bien plus tard est lié à l'anxiété. Supprimer l'anxiété, il n'y aura plus d'alcoolisme. Mais eux me disaient non, c'est l'alcoolisme qui vous donne l'anxiété. Je leur disais non, l'anxiété et la timidité, je l'avais à 15 ans, l'alcoolisme je l'ai eu à plus de 35 ans. Donc l'alcoolisme était l'alcool était le traitement de l'anxiété. Quand je prenais l'estime de moi qui était extrêmement basse, tout ce que j'accomplissais, je trouve ça médiocre et nul, et je me disais comment peuvent-ils penser que je suis quelqu'un de bien. Et en fait, lorsque je prenais du baclofen, tout changeait. Je me disais, je suis quelqu'un de bien, les gens me regardaient, il y avait des gens autour de moi, alors que normalement je ne pouvais pas parler à plusieurs personnes. Et là, je jouais du piano, il y avait des...
Un changement immédiat. Alors on peut peut-être raconter que ce premier contact que vous avez eu, c'est une amie, je crois, qui vous a présenté un article dans lequel il était question de cette molécule. On le rappelle, c'est finalement, on pourrait dire, un médicament, on va dire, très simple, qui est un anti, qui est contre les contractions musculaires, c'est quelque chose comme ça?
C'est ça, c'est un médicament qu'on donne contre les contractions musculaires depuis près de 50 ans, qui n'a aucun effet secondaire. Il n'y a pas un mort répertorié avec ce médicament. On le donne pour des troubles bénins et aux doses plus élevées que les doses que je donne. Donc, c'est ça qui est paradoxal. On fait la fine bouche pour l'addiction qui est une maladie mortelle, alors qu'on le donne depuis maintenant des années sans aucun problème. C'est moins dangereux que l'aspirine, moins dangereux que le doliprane.
Dans cet article, on apprend que ça a aidé quelqu'un qui était dépendant à la cocaïne.
Oui, c'est en fait mal dit, parce que ce monsieur Ed Coleman, j'avais appris, avait été aidé. Mais qu'est-ce que ça veut dire aidé? Il était aidé pour ses spasmes. Et il a remarqué que quand il prenait une dose un tout petit peu plus forte, il avait un tout petit peu moins envie de consommer, de boire, etc. Mais ça ne sert à rien. C'était le cas pour plein d'autres médicaments, l'autopiramate, l'indestrin. Donc là, je me suis dit, ça m'apportera rien. Ce qui m'a intéressé, c'était le côté relaxant musculaire, parce que je me suis dit, mon anxiété, c'est la relaxation musculaire. Et si je peux décontracter les muscles, peut-être l'anxiété s'en ira. C'est ça qui m'a intéressé. Mais là, je n'avais pas du tout la notion de suppression. Chez lui, ils ont réduit. Et j'étais en contact avec cette équipe de Philadelphie. Je leur disais, mais augmentez ces doses. Ils ne l'ont pas fait.
Vous avez essayé.
Ah, ben, je l'ai fait après.
Vous êtes assuré au début de savoir si ce médicament allait pas être dangereux en fonction des doses, j'imagine.
Oui.
Et vous avez commencé à le prendre. C'est quoi? C'est des comprimés?
Oui. C'est ça. J'ai demandé à Pennsylvanie pourquoi ne l'utilisait plus pas à plus forte dose. Ils m'ont dit non, on ne le fait pas. Ils étaient bloqués. C'était les cliniciens et le patient est mort. Donc ça ne lui a servi à rien. Mais en ce qui me concerne, j'ai commencé les doses. Je ne savais pas que c'était sûr. Je ne pouvais pas le savoir puisque je n'avais pas de littérature à l'époque qui l'expliquait et je ne savais pas combien ils étaient montés.
Mais vous, donc, c'était un risque entre guillemets que vous étiez prêt à prendre. Hein.
J'étais pas kamikaze du tout, mais je préférais mourir. Je ne savais pas à chaque fois que je le prenais le soir si j'allais me réveiller le matin, mais je me disais au moins une mort digne plutôt qu'une mort d'overdose d'alcool. Je préférais une mort dans la recherche d'un essai.
Il est beaucoup question de milligrammes par jour. Ça veut dire quoi? Enfin, c'est des comprimés que vous en prenez 3, 10, 50?
Oui, c'est un peu comme quand vous prenez de l'aspirine. Vous prenez 3 gélules par jour. Et ici, vous montez. Ce sont des médicaments où on monte parce qu'on peut pas prendre tout le premier jour la dose forte parce que sinon, ça ne marche pas. C'est le cas de beaucoup d'autres médicaments, donc on construit une tolérance. C'est-à-dire, vous allez prendre 3 comprimés par jour. Ce que j'ai introduit, c'est que en cas de pensée de cigarette, en cas de pensée de cocaïne, en cas de pensée d'alcool, n'importe quoi, ou en cas d'anxiété, vous rajoutez 2 doses supplémentaires. Ça aussi, les médecins français ne le savent pas. C'est un langage, vous savez, l'addiction est un langage qui n'est pas compris par les addictologues et autres. Ils vous disent, moi, quand j'allais les voir, je leur disais, écoutez, est-ce que vous comprenez ma maladie? Est-ce que vous l'avez? Ils m'ont tous dit oui, enfin on aurait pu l'avoir, on ne l'a pas, mais genre je suis supérieur à toi, enfin c'est un peu grotesque. Moi je ne l'ai pas, je sais ce que c'est. J'ai dit, vous savez parce que vous l'avez ce que j'ai ou non? J'aurais pu l'avoir, bon, c'est-à-dire on tournait en rond et je ne connais pas. Lorsque j'ai annoncé en 2004 dans une revue médicale, un médecin, docteur Olivier Amezen, a une addiction à l'alcool, etc. J'étais persuadé d'être suivi par des dizaines de médecins qui diront moi aussi, etc. Puisqu'il y en a des centaines. Et ils ne l'ont pas fait, pas un à ce jour. J'en ai guéri plein des membres de l'Académie de médecine et ils m'ont dit comment vous remercier. Je fais tout gratuitement comme toujours. Et je leur ai dit, dites que vous êtes addict et dites que vous avez suivi mon traitement. Il m'a dit, ah ça j'ai honte. Alors que tout ce que je veux supprimer, c'est la honte. Et j'ai demandé la création d'associations de patients. Ces gens-là, maintenant, montrent leur nom, leur visage. Il ne s'agit plus d'alcooliques anonymes. Ils disent, je m'appelle Pascal Graham, voilà mon visage, je m'appelle...
On sait que c'est très important dans le processus d'affirmation aussi. On va rester avec vous, Olivier Amezen, jusqu'à 13h pour Vivre FM, c'est vous. On va faire une petite pause musicale dans quelques instants, la suite de votre histoire. Et puis, on verra aussi un petit peu comment cette molécule, le baclofène, s'impose ou ne s'impose pas ici en France. À tout de suite. Avec nous jusqu'à 13h, docteur Olivier Amezen. Le dernier verre, c'est votre livre paru aux éditions de Noël. Vous êtes cardiologue. Vous étiez dépendant à l'alcool. Vous étiez alcoolique. Vous racontez cette dépendance. Et puis aussi, comment ce médicament, un anticontraction musculaire, le baclofène, vous a aidé. Vous a aidé à changer, on peut le dire, le cours de votre vie. C'est ce que vous racontez. On va continuer sur votre histoire dans quelques instants. Mais juste avant, comme chaque jour, on passe en revue une idée reçue.
Je peux juste dire, c'est pas le baclofène. Le baclofène, j'en ai pris jusqu'à 30, on le donnait à 30, on le donnait à 100, on le donnait à je ne sais pas quoi et ça ne marchait pas. C'est la façon dont j'ai prescrit, j'ai inventé une façon de prescrire le baclofène et c'est ça la découverte et qui elle fonctionne. Donc le baclofène tout seul, il fonctionne pas du tout. Pas mieux que tous les autres traitements.
Alors un mot sur les rechutes dans les idées reçues. Un verre suffit pour replonger. Vous parlez beaucoup dans votre histoire de ça.
Tout à fait.
Les rechutes, c'est quelque chose... Est-ce que c'est un échec toujours, les rechutes?
Oui. 90% des patients traités dans les meilleures conditions, c'est-à-dire avec médicaments, dans des centres de cure, etc., dans les meilleurs centres de cure, vont rechuter, que ce soit par la nicotine, pour l'alcool, pour la cocaïne, pour n'importe quoi, la rechute se fera à un an. Dans 90% des cas.
Ça vous est arrivé, vous le racontez, c'est souvent dans les mauvais moments, les moments de désespoir.
Moi, je rejetais dès que je sortais de cure, parce que la cure, c'était l'endroit protégé, le cocon. Je sortais de cure, à nouveau, j'avais le stress, j'avais ceci, j'avais cela, et je rejetais le jour même. le jour même.
Les médecins, d'ailleurs, souvent vous demandez, ou les psychologues vous demandez pourquoi vous avez replongé. Vous trouviez pas ça à propos comme question?
Ouais, c'est un peu comme si on disait à quelqu'un qui fait un infarctus, mais pourquoi avez-vous fait votre infarctus? En fait, c'est, vous avez l'impression de dire, mais c'est, docteur, je viens vous voir pour que vous me le disiez. Je croyais, sinon je pouvais rester chez moi. C'est des questions grotesques. Ils n'y connaissent rien. Rien du tout.
Alors, c'est votre point de vue, encore une fois. Hein, je ne peux pas, moi, prendre ce point de vue-là.
Non, mais je veux dire, de mon expérience personnelle, celle des autres, et en plus, ils vous traitent avec manque de respect. Ils vous disent, vous n'avez qu'à, comme si on disait leucémique, vous n'avez qu'à arrêter, faites descendre vos globules blancs. C'est une question de volonté, alors que ce n'est pas du tout une question de volonté. Ce n'est pas le cortex cérébral, c'est le système limbique. Donc, il est ridicule de demander à un alcoolique de s'arrêter de boire volontairement. Il ne peut pas le faire. C'est biologique.
Alors, vous parliez à l'instant de l'utilisation du baclofène. Vous avez raison. Oui. Et c'est quelque chose qui est raconté dans votre histoire à vous. Vous avez augmenté les doses. Enfin, alors, expliquez-nous un petit peu en détail comment ça se passe. Augmenter les doses, ça veut dire quoi? De plus en plus, vous aviez aussi connu des effets rapidement, les premiers effets qui freinaient un petit peu votre envie de boire?
C'était pas freiner l'envie de boire, c'est me donner une sensation de bien-être et supprimer
l'anxiété. De détente, c'est ça qu'on a compris.
Détente musculaire, qui était musculaire, et de bien-être, et je commençais à me sentir vivre. Mais malheureusement, j'étais pas à la dose qui supprimait l'addiction. Ça se passe en deux temps. Vous avez d'abord une dose qui vous donne un bien-être extraordinaire, et vous sentez enfin, j'avais 50 ans, je n'avais jamais ressenti ça, mais j'avais quand même des rechutes. Par contre, je n'ai pas encore vu tous les travaux chez l'animal, et ceci était réalisé déjà en 1997. Moi, j'ai commencé tout ça en 2002, et c'est là que mon idée de transposer ce qui se passe à l'animal, c'est-à-dire que le mot-clé était dose dépendance, c'est-à-dire que le baclofène supprime l'auto-administration. J'ai travaillé sur la cocaïne chez le rat, que l'on rend dépendant. Et l'effet est dose dépendant, c'est-à-dire qu'il y a des rats qui auront besoin de X milligrammes par kilo, d'autres moins, et d'autres, etc. Et c'est la même chose chez l'homme. Alors je me suis pris comme cobaye, je l'ai pris, je ne sais pas si j'allais mourir ou pas en le prenant, et après j'ai appris que c'était en fait un anodin, mais je l'ai appris après les fêtes.
Oui, au début c'était un risque. Vous dites que vous le preniez en buvant, vos cuites étaient raccourcies, oui. Vous buviez toujours, expliquez-nous un petit peu ce que ça veut dire raccourci.
Oui, parce que baclofène raccourcit les cuites, il vous donne une impression de bien-être, donc vous n'avez pas besoin de consommer plus d'alcool. Et après, quand vous buvez,
mais moins. Voilà. Dans un premier temps, peut-être.
Voilà. Et après, lorsque j'ai fait le test, je me suis dit, je ne vais pas boire du tout. L'abstinence est bien meilleure, parce que c'est un peu comme si vous appuyez sur le frein et l'accélérateur. C'est-à-dire que l'alcool stimule la dopamine et la sécrétion, et le baclofène la freine. Donc vous faites deux choses en même temps. Moi, je conseille aux gens d'être abstinent pendant le début, que ce soit l'alcool, la cocaïne. J'ai fait arrêter récemment une fumeuse de nicotine extrêmement dépendante, avec exactement la même chose. Je l'ai traitée en quelques jours. Pour moi, traiter un patient qui a un alcoolisme, je peux le faire en une semaine. Il n'a plus du tout, c'est une suppression complète de sa maladie, avec un bien-être qu'il n'avait jamais eu, de une semaine à parfois 4 semaines maximum.
Oui, ça donne le vertige, ces chiffres. Vous avez connu, vous, des effets secondaires, on va dire, à forte dose notamment?
Oui, des effets secondaires qu'on appelle secondaires parce qu'ils sont des effets qui viennent en plus des effets qu'on appelle indésirables, mais c'est comme je l'écris récemment encore dans une revue médicale. Ce sont des effets désirables. C'est-à-dire, quand vous prenez quelqu'un d'anxieux et vous lui dites, on va vous donner un peu de somnolence, c'est justement la personne anxieuse va se détendre. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'inverse de ce que je dis, et vous pouvez me citer, c'est que le baclofène est un stimulateur cognitif. C'est le cas, par exemple, des amphétamines ou de la cocaïne. Mais les amphétamines et la cocaïne empêchent le sommeil. Donc, vous font faire de plus en plus d'erreurs. Vous croyez que vous êtes très bon. Et en fait, vous faites des fautes et tout le monde vous le dit et vous plantez. Par contre, avec le baclofène, vous avez une vigilance, vous êtes en état d'alerte constante, de concentration superbe. Et quand vient le moment du sommeil, il est respecté. Donc, c'est à l'inverse des autres, il n'est pas une drogue. Il vous force à dormir et du coup vous n'êtes pas vous n'êtes pas non plus dépendante de médicaments.
Donc ces effets un peu qui sont importants. Lorsque vous étiez à haute dose, il n'y a pas eu d'effet dangereux. Vous avez dit au début que c'était un médicament plutôt à la base plutôt léger, mais vous avez monté quand même les doses très haut, non?
Oui. Très haut, par rapport à quoi? C'est un peu comme si vous disiez, vous montez une dose, vous avez pris de l'homéopathie, vous avez triplé, quadruplé la dose. Et alors, j'ai jamais connu de... On n'a pas connu... Il y a des gens qui ont se suicider avec, combien de fois? 250 comprimés, c'est-à-dire à peu près 100 fois la dose que j'ai pris pas un mort, ce qui est exceptionnel pour un médicament, on le fait avec le doliprane ou avec l'aspirine, il n'y a pas eu un mort rapporté, il n'y a pas eu un effet secondaire réversible ou sévère. Donc c'est un médicament complètement anodin. Je pense qu'on peut plus se suicider avec du dentifrice qu'avec du baclofène. Et les effets secondaires du baclofène sont tous irréversibles et bénins. C'est-à-dire que s'il y a un petit effet secondaire, il passe en 24-48 heures. Donc les gens qui sont timides et disent « Oh là là, je pourrais... » Et d'autres qui vont se dire « On ne sait pas si dans 10 ans, ça ne donnera pas peut-être des ongles incarnés. Mais dans 10 ans, le patient alcoolique ou cocaïnomane sera mort. Moi, je préfère... si on me dit « Dans 20 ans, vous aurez un ongle incarné », je dirais « Oh, moi, je serai vivant. » J'étais mort en 2004.
Et un moment assez étonnant, vous racontez, vous êtes à Megève.
Oui.
Vous racontez, c'est la première fois, vous êtes dans un bar et il y a une bouteille, et puis ça ne vous fait rien, quoi.
Rien. Je la vois, je ne la vois pas. Je veux dire, normalement, la bouteille parle à l'alcoolique, comme la ligne de cocaïne parle. Moi, j'ai jamais fait ces drogues parce que c'était illicite. Mais pas, elle vous parle, vous la voyez, il y a un échange. Et je ne les ai pas remarqués. Et maintenant, quand je vais, je sais pas, moi, je vais chez Franprix, chez Carrefour, je ne sais pas quoi, je ne remarque. À la fin, je me dis, est-ce qu'il y avait stand où il y avait deux trucs. Quand je vais dans un bar, je me dis, au fait, il y avait de l'alcool ou pas, je ne le remarque pas. Je n'ai plus de pensée d'alcool. Je ne sais plus ce que c'est.
Mmh. Ça, c'était au bout de combien de temps, ces pensées?
Au bout de, lorsque j'étais au début de l'expérimentation, au bout du 14e jour, je crois, ou du, je ne sais plus quel jour, j'ai commencé c'était le 14 février, je l'ai commencé le 9 janvier.
Mmh. Alors, vous parlez d'expérimentation. Racontez-nous un peu. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous notiez, en même temps, vous faisiez un travail, vous notiez vos réactions, les doses, etc. chaque jour, c'est ça?
Tout à fait. Tout à fait. Je consignais tout par écrit, etc. Mais quand j'ai eu cette indifférence, je n'y croyais pas. C'est un peu comme si on vous dit, vous êtes envolé de la Tour Eiffel pour aller au Sacré-Cœur. Vous dites, c'est impossible. Donc, vous ne le croyez pas. Je me suis dit, personne ne le croira. Ma compagne a fini par le croire parce qu'elle a vu toutes ces transformations, etc. Mais je me suis dit, comment je vais faire? Je suis le seul sur la planète à avoir ça. Ça n'a jamais été décrit. Comment vais-je le transmettre à la communauté médicale? Et je me suis dit, ils vont dire, oui, bois moins, et ou arrête de t'intoxiquer, et comme ça on va te... Et je ne savais pas comment le transmettre. Et j'avais un ancien interne suisse, Boris Pache, à New York, qui lui m'a téléphoné, et je lui ai téléphoné, mais il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus la même voix, tu n'es plus le même, qu'est-ce que t'as fait? Et je lui ai dit, Boris, c'est simple comme un, deux, trois. Les neurologues font ça à telle dose, chez l'animal ceci, et moi j'ai fait ça. Il m'a dit, c'est fascinant, il l'a montré au rédacteur en chef de JAMA, qui est la plus grande revue médicale avec New England, etc., qui a dit, c'est fascinant, nous ne publions pas de cas cliniques, mais envoyez-le à la meilleure revue dans le Alcohol and Alcoholism, où ils ont dit, ce papier est un camé, est un bijou qui doit être disséminé, etc. Donc immédiatement, la réception a été remarquable dans le milieu universitaire.
À ce stade quand même, vous pouviez légitimement vous dire, ça a marché sur moi, ça marchera pas forcément sur d'autres personnes.
Tout à fait, je ne le savais pas, et c'est pour ça que dès le début, j'ai demandé à le tester dès mon premier article et dans deux revues, celle-ci de l'écologie, ensuite dans JAMA la même année, j'ai dit, faut le tester, ensuite je l'ai redemandé dans Lancet, tester, et dans chaque article que j'écris, chaque publication, je disais, tester, en essai, randomisé, tester ce que est la faille et la faute. Et la faute grave, c'est que ces médecins cliniciens, alors que c'était décrit pour l'animal et que moi je le décrivais pour l'homme, auraient dû immédiatement dire, attention, c'est une maladie mortelle, on fait un essai clinique. Ils ne l'ont pas fait. Nous sommes en 2012. Il n'y a pas un essai clinique sérieux qui se profile. Il y a des essais cliniques qui sont teintés de conflits d'intérêts grotesques et qui ne définissent pas du tout les mêmes buts que moi. Ils ne définissent pas l'indifférence, mais l'abstinence. Par exemple, un essai qui est celui de Rigal et Jory, enfin maintenant, faire un essai à 400 mg par jour pour définir l'abstinence. Or, la définissance, une équipe italienne la définissait déjà en obtenait 73% d'abstinence à 30 mg par jour. Maintenant, eux, ils disent, on va donner 400 mg par jour pour avoir le même résultat. Vous dites, pourquoi pas 4 grammes ou pourquoi? Au moins, ça montre qu'on peut y aller, voilà. Mais ça ne sert à rien. L'essai ne sert à rien du tout. De plus, il prive les patients des traitements existants. Et en ce sens, il est criminel. Je demanderai qu'il soit arrêté par un comité d'éthique qui le fait. Et je vais faire également un appel, je l'ai fait déjà, au président de la République, parce que c'est la France. C'est l'image de la France ici. L'Agence française du médicament est la seule agence au monde. Que ce soit la Food and Drug Administration aux États-Unis, que ce soit l'agence du Togo, de la Suisse. Pas une agence n'a mis une intimidation et une réserve sur les médecins. Donc, si la France veut se donner en spectacle l'exception française, je demande au président de la République de mettre de l'ordre dans ça. Je peux pas accepter que nous soyons ridiculisés internationalement à ce point. Donc, je lui demande d'agir et de dire il faut approuver cela. Je pense qu'il le fera. C'est un homme sérieux à la tête de l'État, du seul État qui se donne en spectacle dans le rôle de pitre.
Vous êtes avec nous jusqu'à 13h, Olivia Meysen. Le dernier vers, c'est le titre de votre livre. Dans quelques instants, la séquence Un autre regard. On donnera la parole au docteur William Lovinstein qui est addictologue. Quelques conseils, puis on terminera avec les questions Internet. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Vous pouvez nous les poser chaque jour sur le www.vivrefm.com. À tout de suite. Jusqu'à 13h, notre invité, c'est le docteur Olivia Meysen. Le dernier vers, c'est le titre de votre livre. Vous racontez votre passé d'alcoolique. Vous êtes cardiologue. Vous avez testé un traitement, le baclofène, et on en a largement parlé dans la presse. Dans la séquence Un autre regard, voici
testé
maintenant...
Testé avec succès. Hein.
Avec succès. Vous racontez votre histoire. Vous avez la parole, bien sûr, jusqu'à 13h. Et maintenant, le témoignage du docteur William Lovinstein, spécialiste des addictions. Il n'a pas l'habitude non plus de mâcher ses mots, un peu comme vous. Voici son point de vue sur le baclofène, sur la réussite, les taux de réussite. En général, et puis nous parle
la
aussi
solution
de
médicamenteuse peut exister à condition que l'on puisse préciser à qui elle s'adresse. D'arrêter de comparer un alcoolodépendant à un autre alcoolodépendant, un héroïnomane à un autre héroïnomane. C'est extraordinairement hétérogène. Il y a besoin de comprendre cette individualité initiale au début d'un parcours addictif. Donc le baclofène qui peut s'adresser certainement à ce qu'on appelle peu joliment une sous-population en médecine, c'est-à-dire pas à tous, mérite d'être évalué. Et on en est là. Toute l'évolution de la médecine consiste à sortir du cas clinique futile exemplaire pour essayer d'évaluer. Ce qui est intéressant, ce n'est pas que ça marche bien évidemment chez une personne, mais comprendre pourquoi ça a marché chez elle, chez qui cela pourra marcher, et également chez qui ça ne marchera pas. La dernière conférence de, si j'ose dire, grand public sur le sujet était déjà à 50%. Mais même si on arrive à 30%, ce qui serait 10% de plus que le placebo, ça serait forcément intéressant. Mais simplement, mettons-nous sérieusement au travail, c'est-à-dire faisons les études que cet espoir suscite. Et on en parlera après. Dire qu'il y a une drogue magique, c'est comme penser, si vous voulez, en médecine, qu'il suffit de prendre une pilule pour être bien heureux. Le feuilleton des addictions est toujours fait des trois mêmes épisodes. Usage, abus et dépendance. La dépendance est en effet un dysfonctionnement de notre cerveau. C'est devenu une machine qui marche différemment, avec des secteurs précis du cerveau qui ont été altérés au fil des abus. Et là, on a une cible pharmacologique précise si on veut réparer ce qui a été abîmé par ces années de consommation. Bien sûr que je pense, surtout en tant que médecin, que l'évolution des neurosciences va être une évolution positive en apportant des médicaments, mais comme dans tous les domaines de la médecine, on n'aura pas un médicament magique.
Voilà le point de vue du docteur William Lovinstein, qui est addictologue, médecin. Alors, pour vous, pour lui, le médicament magique n'existe pas.
Oui, alors j'ai beaucoup de sympathie pour lui. On se connaît et il est charmant, mais il a tout faux, comme on dit. Il n'a rien compris. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament, il aurait fait une maladie complexe. C'est parce qu'une maladie complexe que le traitement n'est pas simple. Je suis cardiologue et dans tous les domaines, les maladies multifactorielles, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit l'infarctus du myocarde, elles sont extrêmement complexe, génétique, ceci, cela. Alors on va dire chaque patient est différent. On donne des traitements standards pour l'hypertension qui marchent très bien, qui sont prescrits aujourd'hui par des généralistes. Ce sont les généralistes d'ailleurs qui maintenant prescrivent les traitements par le baclofène. On n'a pas l'addictologie n'est pas Monsieur Lovinstein est addictologue, c'est une spécialité obtenue par des cours du soir. Enfin c'est pas une véritable spécialité au même titre que la cardiologie, etc. Donc il se prévaut.
Alors on
ne
peut pas non plus effacer complètement. Je comprends ce que vous dites sur le traitement, le médicament. On ne peut pas effacer non plus la dimension psychologique Non, au moins pour le patient.
Je vais vous dire, j'étais étudiant en médecine. On nous disait, vous savez, l'ulcère, c'est ceci, cela, les piments, c'est aussi une grande composante psychologique. Et on forçait les gens à aller voir exactement comme là des psychiatres, parce qu'on dit c'est la poubelle de la médecine. On disait, comment tu comprends rien, on envoyait le psychiatre. Il payait, il sortait, il avait toujours l'ulcère et ça servait à rien. Donc un beau jour, les Barry Marshall et Warren ont eu le bien plus tard en 83, on dit on voit une bactérie dans l'estomac. Il faut traiter cette bactérie. C'était très multifactoriel. Ils ont traité les bactéries par un antibiotique. Il a auto-expérimenté, il l'a prise et il était guéri.
Oui,
et
ça a réduit 99% des ulcères qui étaient.
Exactement.
Qui étaient, donc l'origine était ces
voilà.
Bactéries.
Alors,
c'est pas très longtemps qu'on donne ces traitements.
Voilà, c'était de 83 la découverte, le prix Nobel 2005. Cependant,
autour du baclofène, ça fonctionne sur des gens qui sont au fond du gouffre, si je puis dire.
Oui, non, pas du tout. Et alors ça, ces gens, comme pour l'ulcère, ils étaient pas du tout au fond du gouffre, mais ça a supprimé complètement l'ulcère, ça a supprimé tout, et surtout le besoin de la psychothérapie. Il y avait trois lobbies. Les psychothérapeutes, les thérapeutes qui voulaient que les gens aillent les voir, bien sûr, parce que c'était bon pour eux. Il y avait les gastro-entérologues qui voulaient faire des fibroscopies, et il y avait enfin les labos pharmaceutiques qui avaient des médicaments qui ne marchaient pas du tout. Donc ici, on a les mêmes lobbies, les psychiatres, et c'est vrai qu'ils disent, venez me voir, j'ai la solution. Mais si vous regardez les traitements psychiatriques, la preuve
d'efficacité, un combat de tout ça.
Mais il n'y a pas un combat, il n'y a pas un, montrez-moi un essai clinique d'un traitement psychiatrique qui marche. Il est trouvable nulle part. Il ne marche pas, c'est comme si vous l'envoyiez chez le fleuriste.
Mais il n'y a pas que ça, je veux dire, l'aide psychologique pour le patient, enfin l'accompagnement,
l'aide
ça peut
l'aider aussi. L'aide du fleuriste, ça peut l'aider aussi.
Ouais, je dis pas
l'aide du fleuriste, du boucher, de la personne qui lui parle, etc. Mais est-ce qu'il faut aller faire payer?
Votre découverte à vous nous a pas porté. Est-ce que votre découverte a pas été votre aide psychologique dans l'histoire qui vous a porté aussi vers la guérison?
Je vais vous dire, les gens vont voir des psychiatres parce qu'ils sont désespérés. Le jour où ils deviennent guéris par le baclofène, ils cessent de voir des psychiatres. Ils disent que le psychiatre leur manque de respect avec un ton condescendant, leur disant, vous avez la maladie, moi non. Alors qu'en fait, la plupart des psychiatres ont cette maladie. On sait que 30 à 50% d'entre eux l'ont et ne l'avouent pas. On dirait qu'en France et dans le monde, il y a un médecin, Olivier Mézen, qui a eu une addiction. Est-ce que Monsieur Levenstein a une addiction? Est-ce que Monsieur Jory? Est-ce que
de Bourgogne? Il a raconté, il a eu des addictions.
Bon, il a des addictions. Alors, il connaît ce qu'il connaît le craving et par quoi il les traite. Vous voyez? Mais, est-ce qu'il a un traitement? Est-ce qu'il peut ne pas rechuter? Moi, j'ai un traitement qui est reconnu par le Guardian, par Science, la plus grande. Alors, je n'ai pas vu d'article de Science, sur les
travaux de Levenstein. Comprenez-moi, je ne pense pas. Je suis pas en train d'opposer. Enfin, vous l'avez fait et c'est votre droit. Je suis pas en train d'opposer le component psychologique et le traitement. Simplement, est-ce que il y a des patients qui, ça fait des années, qui sont un peu dans un grand désespoir? Pour les familles aussi.
Oui.
Il faut les accompagner un peu dans tout ça.
Non, il faut leur donner le médicament.
Prendre leur boîte, alors.
Mais il faut qu'ils aillent prendre leur médicament qui leur donnera justement le bien-être et ce qu'on appelle l'euphorie, et pas au sens psychiatrique du terme EU, c'est-à-dire le bien comme euphonie en médecine, c'est-à-dire le bien-être. Et là, ils vont vous dire, qu'est-ce que je vais aller m'embêter à aller voir un psychiatre ou à prendre un verre? Je vais bien, ceux-là ne vont plus chez le psychiatre. Les psychiatres arnaquent ceux qui font croire aux gens qu'ils ont un problème. La psychiatrie peut faire beaucoup de dégâts et beaucoup de torts. Il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas l'aide en psychiatrie qu'on leur promet. Comment peut-on promettre une aide en psychiatrie? Si c'est un peu comme la voyante qui va vous dire « je peux vous aider », mais elle ne peut pas vous aider. Il n'y a pas un essai qui montre que le psychiatre sert à quelque chose. Si vous me dites, il y a un essai qui montre qu'il sert à quelque chose, je dirais bravo, mais il n'y en a pas.
Il y a aussi plein de façons de faire de la psychiatrie et plein de façons, plein de techniques, et on peut peut-être pas tout mettre non plus dans le.
Mais aucun résultat. Il y a mille façons d'envoyer des roquettes, des fusées sur la Lune, mais il n'y en a pas beaucoup qui marchent. Si vous mettez une petite allumette et vous faites le je sais pas quoi, ça marche pas. La psychiatrie, c'est ça. Par contre, quand vous l'aviez par la NASA, ça marche. Et par le baclofène aussi.
On va passer aux questions internet. Nos auditeurs vous ont posé des questions sur le site www.vivafm.com.
Et je voulais juste rappeler que je vais faire pour faire comprendre aux gens en France, à partir de septembre, des conférences qui seront à le doyen de la faculté de Cochin me l'a demandé, et aussi des groupes de parole parce que les gens ont besoin.
Les conférences
qui
seront ouvertes au public.
Tout à fait.
Et qui seront gratuites.
Non, elles ne seront pas gratuites parce que finalement je n'ai aucune source de revenus et le doyen m'a dit vous allez finir à la ruine. Faites payer, c'est le doyen qui me l'a demandé.
Allez, les questions internet. Martine nous écrit de Dévry. Martine Dévry, est-ce que les assurances et l'assurance médicale et la Sécu prennent en compte les traitements contre l'alcoolisme, tous les types de traitements?
Alors le seul type de traitement qui mérite d'être pris contre l'alcoolisme, il coûte le prix d'un café au comptoir. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est alcoolique et qui me dit ce n'est pas remboursé, je lui dis dites-moi votre bière c'est remboursé, votre paquet de cigarettes c'est 6 euros, le café au comptoir c'est 1,20 €. Donc si on peut le payer de sa poche, si on peut payer un litre de je ne sais quoi de sa poche, je crois qu'on peut très bien payer...
Ce traitement est un traitement, donc on a compris dans l'émission, pour une autre indication. Hein.
Voilà.
Donc il faut faire quoi? Il faut ruser, il faut...
Extension d'AMM, mais comme me le dit le plus grand, celui qui a découvert cela...
Autorisation de mise sur le marché.
Non, elle est autorisée sur le marché, mais c'est une extension d'indication. Et comme le dit David Roberts, qui a découvert la cocaïne, il m'a dit, ton combat est le plus... est une première dans l'histoire, dans la mesure, c'est le premier combat hors AMM. On se fout de l'AMM. On se fout de l'Agence française du médicament, complètement.
Henri, maintenant, du 17e, j'ai entendu parler des rêves d'alcoolique. Est-ce que ça existe vraiment?
Tout à fait. On parle de craving, j'en ai parlé dans mon livre, bien sûr, les rêves, c'est affreux. On se réveille, on a de l'alcool dans la bouche, alors qu'on s'est dit, mais je n'ai pas bu, on s'est dit, j'ai rechuté. L'alcool est présent, c'est atroce. Vous allez chercher la bouteille, vous ne la trouvez pas. Vous allez à la cuisine, elle n'y est pas. À la fin, vous vous dites, je n'ai pas bu, vous êtes tremblant, vous ne savez pas quoi faire. Et c'est des rêves atroces. Les psychiatres ne les connaissent même pas.
Julien du 18e à Paris. Je bois tous les week-ends pour faire la fête.
Oui.
Ma femme aussi. Est-ce qu'on risque de devenir dépendant? Comment glisse-t-on vers la dépendance?
Ça dépend s'ils ont un mal-être ou non. Quand les gens ont fait de l'héroïne au Vietnam, ils le savent tous, comme vous le voyez dans le film Born on the 4th of July avec Tom Cruise, etc., 90% qui faisaient de l'héroïne là-bas parce qu'ils ne supportaient pas ont arrêté, 10% sont restés dépendants, donc 10% en général est le chiffre qui fait que les gens resteront dépendants, mais pas 90%.
Marie nous écrit de la ville de Lyon, on nous écoute par internet. J'ai 50 ans, je suis devenu alcoolique. Ma famille me prend pour une femme dépravée, comment leur expliquer que ce n'est pas le cas?
Voilà. Elle a une maladie. Si elle avait, comme m'a dit récemment une malade qui a lu, une Hollandaise, elle est venue me voir, j'étais à Cannes, elle a fait le trajet. Elle m'a dit, je ne savais pas, elle m'a dit, je suis guérie, j'ai lu votre livre, je suis guérie depuis 4 ans. On me traitait avec un manque de respect qui était, pourquoi ne peux pas-tu faire ça, etc. Et elle m'a dit, hier, on m'a annoncé un cancer du poumon, et les gens me disent, c'est formidable, tu vas te traiter, etc. C'est-à-dire que pour l'autre, on lui disait, tu es une locumène, parce qu'on ne comprend pas que le contrôle de cette addiction n'est pas dans le cortex, c'est-à-dire l'intelligence, il est dans le système limbique. Demandez à quelqu'un d'arrêter de respirer pendant une demi-heure, vous pouvez pas. C'est le cortex, la volonté le demandera, mais le système limbique le refusera.
Et on termine avec Eric. Eric nous écrit de la ville de Gennevilliers. Je n'arrive plus à gérer ma consommation d'alcool. Est-ce que je peux trouver des soutiens et est-ce que vous me conseillez de rencontrer d'autres alcooliques?
Oui, mais ça ne lui servira qu'à être dans le lot des gens qui vont aller plus mal, mourir dans les lots des alcooliques, parce que la survie dans les lots dans les alcooliques anonymes est extrêmement faible, comme le disent les organisateurs eux-mêmes. Et en plus, c'est anonyme, on peut pas tenir. Donc, il faut qu'ils prennent du baclofène et de l'urgence.
Vous tapez sur tout, c'est votre point de vue. En tout cas, on invite les gens qui nous écoutent, qui le souhaitent, à lire votre livre, Le Dernier Verre, qui est paru aux éditions de Noël. Et je vous remercie, docteur.
C'est moi qui vous remercie.